Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, en toi j'ai trouvé la paix.
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes. Merci parce que tu es fidèle à tes promesses. Tu nous as réunis à ces lieux parce que tu as un message à nous communiquer. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Semerita Kavira Kamundu. Je suis épouse du pasteur Nyondo Joseph de la paroisse Sebeka Himbi 2. Nous remercions le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être à ces lieux et que nous puissions partager sa parole. Alors, le texte du jour, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 12, du 1er au 6e verset. Nous allons aussi lire dans Actes des Apôtres chapitre 16. Versets 13 jusqu'à 15. Et enfin, nous lirons 3 Jean, chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Nous lisons, en commençant par Genèse, chapitre 12, du 1er au 6e verset, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père. » Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Parole du Seigneur. Comme je l'ai indiqué, nous lisons aussi Actes des Apôtres, le 16e chapitre. Nous lisons du 13e au 15e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle fut et lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses assistances. Amen. Enfin, nous lisons 3e épître de Jean, le verset premier jusqu'au troisième. Nous lisons au nom de Jésus. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est la parole du Seigneur. Amen. À partir des différents textes que nous venons de lire, nous allons décortiquer le sujet intitulé « Tous pour la stabilité de la famille ». Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est un dimanche réservé au service femmes et familles. Alors, nous avons découvert que la famille a une grande importance dans l'Église parce que sommes tous venus de différentes familles pour constituer l'Église. En termes contextuels, disons que la famille étant la base de l'Église et de la société, elle nécessite une attention particulière afin que cette Église puisse prospérer, afin que cette Église puisse aussi vivre en stabilité. Nous savons que les membres de l'Église et de la société proviennent de différentes familles. Ils sont avant tout membres des familles avant d'être membres de l'Église. Le comble est que certaines familles ne sont pas stables. Certaines familles vivent l'instabilité parce qu'il y a incompréhension entre époux et épouse. Dans certaines familles, il y a mésentente entre parents et enfants. Dans d'autres familles, il y a tiraillement des enfants entre eux. Dans d'autres familles, il y a des conflits, peut-être avec une autre famille voisine. D'une manière brève, nous pouvons dire que certaines familles manquent la stabilité. Raison pour laquelle le sujet de ce jour nous invite tous, papa, maman, jeunes, enfants, à contribuer à la stabilité de la famille. Si nous voulons donc prospérer, si nous voulons voir notre famille en prospérité, soyons tous des acteurs de la stabilité dont nous avons besoin. Je me rappelle le jour sur cette même chaire, quand nous parlions de l'éducation des enfants, nous avons dit que si dans une famille, le père a un problème, son épouse risque d'en être victime. Et quand la famille a subi la colère de son mari, elle risque de transférer aussi ses émotions à qui? Aux enfants. Et les enfants de leur côté, les plus grands, vont transférer leur colère ou leurs émotions au plus jeune. Et le plus jeune va transférer sa colère à qui? À l'animal qui vit dans la maison. Peut-être au petit chien, peut-être au petit chat. Et c'est là qu'il y a des bandades dans la famille parce que le père a un problème. Il ne sait pas se contenir avec son épouse. Et son épouse peut-être ne sait pas se venger contre son époux. Elle va transférer sa colère contre les enfants. Et là, donc, on va vivre en famille le monde des transferts d'émotions et de colère. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à vivre en stabilité. Raison pour laquelle, pour développer ce thème, ce sujet du jour, nous allons partir de trois petites questions. Nous allons nous rappeler quel sens nous pouvons donner, nous pouvons accorder à la stabilité dans la famille. En deuxième lieu, nous pouvons nous demander quels sont les indicateurs de cette stabilité. Troisièmement, nous pouvons aussi nous dire comment chaque membre de famille peut contribuer à la stabilité. En rappelant le sens de la stabilité, nous avons consulté certains ouvrages. Nous avons réalisé que la plupart d'auteurs, lorsqu'on veut parler de la stabilité, on passe directement à la prospérité. C'est là que vous allez voir les autres dire « quand la famille est stable, ça veut dire que c'est une famille qui a de l'argent, c'est une famille qui est riche, c'est une famille qui a construit autant de maisons, c'est une famille qui est stable et qui a des champs, et donc tout le monde vit en paix. » Les autres disent que la stabilité, c'est l'état de ce qui réussit. C'est l'état de ce qui est caractérisé par l'expansion, l'abondance. Donc, c'est le développement aussi, la croissance ainsi que l'expansion. C'est une condition d'une personne en bonne santé. Et puis, on peut dire que c'est aussi la réussite à tous les niveaux, comme vous pouvez l'observer sur vos écrans. C'est-à-dire, on peut aussi parler du progrès ou la réussite dans la vie, sur le plan spirituel, sur le plan financier, et sur le plan sanitaire et aussi sur le plan psychologique. Bref, nous pouvons dire que la stabilité peut aussi avoir le sens de la paix du cœur en dépit des difficultés et des défis du moment. C'est la raison pour laquelle les autres, en voulant dessiner la paix, ils ont présenté un oiseau sur l'arbre, et maintenant cet arbre est en train d'être secoué par le vent, mais le petit oiseau reste stable. Et cela veut nous dire que la stabilité de la famille implique aussi une sorte de prospérité spirituelle de chaque membre de la famille sur le plan économique, social, avoir de bonnes relations avec l'entourage, malgré les défis qui peuvent y être relatifs. En considérant le texte que nous avons lu dans Genèse, chapitre 12, du 1er au 6e verset, nous pouvons dire qu'il s'agit de l'abondance promise par Dieu à Abraham lorsqu'il fut appelé à quitter sa famille pour aller là où Dieu le montrera. Et là, c'est au pays de Canaan que Dieu l'a appelé à aller séjourner. Ici, nous comprenons qu'Abraham n'est pas parti seul. La parole de Dieu nous a montré qu'il était parti avec son épouse Sarai, son neveu Lot et les serviteurs, ainsi que tous les biens qu'ils avaient à ce moment-là. Ici, nous tenons à signaler que le couple n'avait pas encore d'enfants. Au verset 5 du même chapitre, nous trouvons que tous ceux qui étaient avec Abraham ont accepté de partir avec lui. Ils n'ont pas constitué un obstacle à son appel par Dieu. Ici, nous sommes en train de nous interpeller en disant que tu sois enfant biologique ou enfant adoptif. Serviteur, tu es appelé à contribuer à la stabilité de ta famille. De là où tu restes, ne sois pas un obstacle à la stabilité de la famille qui t'a accueilli. Ne sois pas un blocage aussi à la stabilité de l'Église. Le problème est que dans certaines familles, papa peut avoir une vision, mais la personne qui va être la première à bloquer cette vision, c'est qui? C'est son épouse. Ou bien c'est l'épouse qui a une vision, quand elle veut partager ça avec son mari, le mari va dire non, otacha bananione, abienyuna leta tunjo tutakuwa naende yako. Ce n'est pas dans ce sens que nous devons être stables dans nos familles. Actuellement, nous sommes en train de voir les jeunes qui ont des visions et qui peuvent aider certains parents. Mais certains parents aussi, à cause de l'orgueil, ils refusent de suivre les idées des jeunes. C'est un problème qui fait à ce que certaines familles manquent la stabilité. Quels sont les indicateurs de la stabilité familiale? Ici, nous allons nous référer au texte que nous avons lu dans Actes des Apôtres, où nous avons découvert que Paul, lorsqu'ils étaient en train de voyager avec ses confrères, les autres disciples, ils ont voulu chercher là où on va prier. Et la parole de Dieu nous a montré qu'ils ont rencontré un groupe de femmes. Ils pensaient que c'est un lieu de prière. Et là, ils ont trouvé une autre femme, une des femmes qui était marchande et que Dieu a ouvert afin qu'elle puisse écouter la parole de Dieu. Il s'agit de Lydie. Lydie a écouté la parole de Dieu et elle a influencé aussi sa famille au baptême. Elle, lorsqu'elle a été baptisée, la parole de Dieu nous a montré qu'elle a aussi insisté à ce que les apôtres puissent aller demeurer dans sa famille. Et la famille de Lydie a aussi été baptisée. Si nous lisons aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 18, nous allons découvrir qu'il y a un autre couple, Aquila et Priscilla. Le texte en question, nous ne l'avons pas lu. Mais là, nous allons découvrir que l'un des indicateurs, c'est l'attente et le respect mutuel. Ce couple d'Aquila et Priscilla, c'est un couple qui a été caractérisé par l'hospitalité parce qu'ils ont très bien accueilli l'apôtre Paul et ils avaient le même métier. Et ici, nous évoquons l'hospitalité aussi de Lydia que nous avons découvert dans ce texte que nous avons lu. Comme indicateur de la famille stable, nous pouvons dire que la famille a moins de conflits. Si nous lisons Genèse 13, nous allons découvrir qu'Abraham, après avoir arrivé au pays de Canaan, il ne voulait pas être en conflit avec son neveu Lot. Il a voulu qu'il se sépare à l'amiable. Et donc, une famille stable, les membres de cette famille s'effluencent dans les bonnes choses. Les membres de cette famille s'effluencent dans la bonne voie. C'est ce que nous avons dit de la femme Lydie. Selon le texte que nous avons lu à 3 Jean, nous trouvons qu'il y a d'autres indicateurs de la stabilité. Et là, c'est la stabilité surtout spirituelle qui est exigée pour chaque membre de la famille, enfant, jeune, parent ou adulte. Il s'agit du vrai amour que nous devons vivre les uns aux autres. Il s'agit aussi du bon témoignage. Nous avons découvert que l'écrivain de cette épître de Jean était en train de témoigner le vieux qu'on appelle Gaius. Et il est aussi capable de prier pour la stabilité et la prospérité de chacun et non pas souhaiter la mort des uns et des autres. Nous savons que dans certaines familles, il y a des problèmes parce que, au lieu de nous souhaiter la prospérité, au lieu de nous souhaiter la stabilité, mais nous souhaitons la mort. Et ça, c'est la cause du phénomène Karuho qui est en train de ravager la plupart des familles. Parce que on ne veut pas s'aimer, mais plutôt on crée la haine les uns aux autres. Et si la famille est endommagée par ce phénomène, que sera l'Église? L'Église qui est constituée de plusieurs familles, c'est que l'Église serait aussi un problème. Que le Seigneur nous aide à nous réjouir du progrès des autres, comme l'apôtre nous l'a montré dans l'épître de Jean. Passons à la dernière question où nous devons nous demander comment chaque membre de famille peut-il contribuer à la stabilité. Nous savons que dans la vie, une personne a la capacité de donner de ce qu'elle possède. On ne peut pas te demander de ce que tu n'as pas. C'est pour cette raison que nous avons besoin que chacun de nous prospère et qu'il ait la stabilité personnelle d'abord avec Dieu, afin de contribuer à la stabilité de la famille. Au cours de toutes les périodes de la vie, nous savons qu'on est d'abord enfant, et puis on est jeune, et puis on devient adulte, personne âgée. Actuellement, on parle du troisième âge, jusqu'au décès. Malheureusement, la mort n'a pas de période fixe, mais nous sommes appelés à être en bonne relation avec Dieu à n'importe quelle période de notre vie. Parce que nous sommes sans ignorer qu'il n'y a que seul Dieu qui est capable de nous aider à impacter les membres de nos familles. Car si tu es parent aujourd'hui, hier tu étais jeune, et avant-hier tu étais enfant, et demain c'est toi le vieux. Et l'enfant d'aujourd'hui, c'est le parent de quel jour? C'est le parent de demain. Il est le parent de demain qui est appelé à fonder aussi une famille stable. Et s'il n'a pas eu une bonne base à partir de là où il a grandi, quel sera son sort pour l'avenir? Il est donc important que chacun travaille pour une stabilité de la famille pendant le statut actuel. Si tu es jeune, travaille déjà sur la stabilité de ta famille, de là où tu restes, et la famille que tu vas aussi fonder. Le texte de 3 Jean nous a montré que Gaius était un croyant fidèle. La prospérité de son âme se voyait même dans tout ce qu'il faisait, dans sa marche. Il marchait dans la vérité et dans l'amour. Raison pour laquelle il devait être témoigné par tous les frères qui le voyaient. Il avait un amour pour ses frères, il avait aussi l'amour pour les étrangers. L'apôtre Jean était capable de lui écrire « bien-aimé ». Ce n'était pas le fait de dire « bien-aimé » avec hypocrisie, mais « bien-aimé » qui venait de son cœur. Il était capable de dire « bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais à tes frères, même aux étrangers qui ont témoigné de ton amour devant l'assemblée. » Lydie, de son côté, en Actes des Apôtres, était capable d'influencer les membres de sa famille au baptême. Elle était capable d'inviter les serviteurs de Dieu dans sa maison parce qu'elle-même était d'abord convaincue par cette même parole. Il est important pour chacun de faire l'introspection. Suis-je en train de contribuer à la stabilité de ma famille? Ou c'est moi qui suis en train de rendre ma famille instable dans mon comportement, dans mes actions? Peut-être tout ce que je fais est à contre-courant des idées de mes parents. Comment est-ce que vous gérez vos émotions pour garantir la stabilité de la famille? Est-ce que vous les gérez par transfert ou vous avez les occasions de vous mettre ensemble pour gérer ce type de conflit? Que chaque chrétien ou chrétienne ici présent qui écoute ce message soit capable de s'examiner. Votre manière de vivre en famille. Nous sommes appelés à imiter des personnes responsables. Ici, comme Abraham, sommes-nous capables d'influencer les membres de nos familles à nous accompagner dans nos vocations? Abraham a été en mesure d'aller avec les membres de sa famille. Il y a des familles où l'épouse ne connaît même pas le revenu mensuel de son mari. C'est un problème. Avec l'évolution de la technologie, on n'a même pas le temps d'écrire à son époux ou à son épouse un petit message pour lui dire « Voici, il y a quelque chose qui s'ajoute de ce que nous faisons. » Les jeunes actuels qui nous surprennent toujours, des téléphones de high quality, vous ne savez même pas ce qu'ils font comme travail, mais vous les voyez seulement avec un grand téléphone. Bon, on se demande qu'est-ce qu'il fait. Et là, vous êtes en train de rendre vos parents malades. Parce qu'ils ne savent même plus vous approcher. Et quand il veut vous parler, vous dites, viens nous chercher, habite à vieux. C'est vrai, il est vieux, mais la manière dont vous l'appelez vieux, il est comme ça, Kazara ou Moïse. Que Dieu nous aide, mes chers amis. Il y a de ceux-là qui font des commerces, mais on ne sait pas. Capital, il y a l'autre, le partenaire ne connaît pas. Et si le partenaire ne connaît pas, qu'en est-il des enfants? Est-ce que les enfants peuvent avoir une idée? On ne sait pas. Ici, il y a quand même un exemple à suivre chez Lydie. Pour ce qui concerne la vie économique, elle était commerçante, mais la parole de Dieu nous a montré qu'elle craignait aussi Dieu. Et elle a eu le temps d'écouter la parole de Dieu. Et c'est par cette écoute attentive que Dieu a ouvert son cœur au message que Paul était en train d'annoncer. Comme si cela ne suffisait pas, elle était aussi assise avec les autres femmes. Est-ce que vous avez le temps de vous réunir avec les autres au courant de la semaine? Nous avons des cellules que nous organisons, il y a des cultes des mamans. Ailleurs, il y a des cellules des jeunes. Est-ce que vous avez le temps? Ou parce que vous êtes marchand ou marchande, vous n'avez plus le temps d'écouter. Seulement le dimanche, on épousette la Bible pour venir ici. Que le Seigneur nous aide. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la base de notre stabilité. Il y a d'autres qui trouvent le travail. Pendant qu'il était en chômage, il était très régulier. Mais après le travail, c'est le plus absentéiste. Et des fois, Dieu peut-être se demande comment il peut nous gérer. Nous ne devons pas chercher la stabilité sur un seul plan, physique peut-être ou économique, mais il ne faut jamais oublier la stabilité spirituelle. Jean a écrit dans l'épître que nous avons lu, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Comment est alors l'état de ton âme pour que ce souhait se réalise sur toi? Est-ce que ton âme est stable pour qu'on dise que tu prospères maintenant comme ton âme est en train de prospérer? Peut-être tu es en conflit avec toi-même, tu es en conflit avec ton Dieu. Et maintenant, le pasteur Daniel prie, je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Comment est l'état de ton âme? Et quand tu fais l'introspection, est-ce que ça vaut la peine que le pasteur puisse faire cette prière? Si on dit que tu prospères comme l'état de ton âme, parce qu'il est en conflit avec lui-même. Il est en conflit avec sa famille. Il est en conflit avec Dieu. En tant que disciple de Christ, homme ou femme, jeune ou enfant, nous sommes appelés à avoir le véritable amour plutôt qu'un amour hypocrite en famille comme dans l'Église. Nous devons examiner notre vie personnelle. Comme je le disais, comment est l'état de ton âme? Si tu te vois propre et juste, tant mieux. Mais la parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui cherchent le médecin. Donc Dieu nous veut vivre en équilibre. Dieu veut apporter l'équilibre dans notre vie chrétienne et familiale afin que nous puissions nous épanouir en prônant la stabilité mutuelle en famille et à l'Église et que nous puissions prier les uns pour les autres comme Jean l'a fait pour le vieil Gaius. C'était aussi le cas pour Paul quand il a prié pour les Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23 qui dit « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous oriente. Et qu'il nous aide, chacun à son niveau, à contribuer pour que sa famille soit stable spirituellement, économiquement, socialement. D'une manière brève, que la famille soit stable sur tous les plans jusqu'à la venue de notre Seigneur. Ne te soustrais pas de la stabilité de ta famille. À d'autres termes, je vais dire que la stabilité de ta famille dépend de toi. Tu peux te dire, la stabilité de ma famille dépend de moi. Tu peux te dire ça. Et tu peux dire à ton voisin, la stabilité de ta famille dépend de toi. Nous allons prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu ne fais rien au hasard. Tu as permis que nous puissions suivre ce message où nous sommes en train d'apprendre que tous nous sommes invités à contribuer à la stabilité de nos familles. Permets à chaque personne qui vient de suivre ce message à le mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.